La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour une émission consacrée comme chaque semaine au sujet à la une de l'actualité nationale. Je salue ceux qui ont accepté d'y participer aujourd'hui. Tout d'abord Thierry Cotel, conseiller régional d'Occitanie, président national du mouvement républicain et citoyen, dirigeant d'entreprise, et Pierre Esplugas, universitaire, professeur de droit public, adjoint au maire de Toulouse, membre du parti Les Républicains. Je souhaite la bienvenue à Thierry Cotel, sachant que Pierre Esplugas n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il va vite parvenir à nos studios, parce que débattre tout seul Thierry Cotel, c'est peut-être le faire, mais ce sera embêtant. Le premier sujet que je vous propose, nous le devons au Premier ministre Sébastien Lecornu. Il a annoncé vendredi dernier que le montant des aides de l'État allait passer de 5,5 à 10 milliards d'euros d'ici 2030, et ça pour encourager la consommation d'électricité, avec l'objectif de réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles. Cette annonce intervient alors que les prix du pétrole et du gaz flambent depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Je rappelle que la guerre en Ukraine est toujours en cours d'autre part. Alors Sébastien Lecornu a précisé que l'effort du gouvernement portera essentiellement sur le logement et les transports dans le but, je le cite, de changer d'échelle avec une véritable planification sérieuse et suivie dans la durée. Vous avez pris connaissance, Thierry Cotel, de ce plan et des mesures qui l'accompagnent. Est-ce qu'il vous semble pertinent? Est-ce que c'est une voie à suivre compte tenu de l'instabilité actuelle des marchés d'énergie, celle-ci étant liée elle-même à l'instabilité politique et géopolitique qui règne dans plusieurs zones stratégiques de la planète? On vous écoute.
Bonjour à tous. Mais écoutez, faut juste savoir si ce plan va véritablement être appliqué ou pas. C'est peut-être déjà la question qu'on arrive maintenant à se poser en premier lieu, avant de se prononcer même sur la justesse des mesures qui sont proposées. Parce que si j'ai bonne mémoire, ce sont déjà des propositions qui ont été faites par le passé, qui n'ont pas été appliquées. Donc la première question, c'est...
Quid
de l'application et quid de la parole finalement de ce gouvernement ou de ces divers gouvernements successifs d'Emmanuel Macron qui réagissent en fonction du moment et n'ont absolument aucune vision de long terme et aucun plan en réalité capable d'être tenu sur la distance. Et sur les questions énergétiques, on a besoin justement non seulement d'une visibilité, mais également d'une planification. Alors je lâche le gros mot, d'une planification sur ce que l'on veut réellement de notre politique énergétique. Veut-on véritablement s'affranchir des énergies fossiles et donc de la dépendance d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient? Veut-on véritablement s'axer vers la transition énergétique de façon à diminuer d'une manière sensible nos émissions de gaz à effet de serre? Toutes ces questions, j'aurais envie de les poser à Sébastien Lecornu, mais aussi plus généralement à l'ensemble du gouvernement des gouvernements successifs de Macron. Voilà, c'est ma première réaction par rapport à ce qui a été annoncé maintenant, qui d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, en deçà même d'un certain nombre de propositions qui avaient été faites il y a déjà quelques temps. Je n'ai qu'à penser au nombre de l'ambition qu'il y a d'arriver à 1 million de véhicules électriques. Précédemment, l'objectif était à 2 millions. Donc on ne sait pas pourquoi ça a été divisé par deux, mais en tout cas, c'est divisé par deux. Voilà, tout ça manque en réalité, encore une fois, de vision politique, de vision stratégique. Quand il a fallu faire le plan nucléaire, quand le Premier ministre Messmer a lancé le plan nucléaire, c'était un plan qui visait, qui avait un objectif et qui visait une politique qui devait être menée d'une manière assez constante et de long terme. Et ça a été le cas. En plus de 10 ans, il nous a fait changer finalement d'origine de production d'électricité, puisque le parc nucléaire est arrivé 10 ans après les premières annonces. Il d'ailleurs n'a pas été remis en cause par les gouvernements, évidemment de droite, et premiers ministres successifs qui sont venus après Messmer, mais également aussi lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, puisque la plupart des centrales nucléaires, en tout cas celles qui fonctionnent actuellement, ont été mises en place au moment où Mitterrand a été élu président de la République.
Pour revenir sur cette annonce de Sébastien Lecornu, est-ce que vous avez le sentiment que justement c'est un peu un effet d'annonce sous la pression des événements, avec cette flambée des prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient qui s'ajoute au conflit déjà en cours en Ukraine, qui lui-même avait déjà eu des conséquences sur les tarifs de l'énergie? Est-ce que vous pensez que c'est ça, c'est un peu sous la pression de l'événement pour un peu occuper la scène médiatique?
Mais c'est toujours sur la pression de l'événement que les décisions, que les annonces font. Et c'est bien là aussi le problème, c'est-à-dire que nous avons une classe politique qui réagit en fonction des événements et puis des crises successives qui peuvent nous arriver, et sans que c'est ensuite une constance en fait. Alors peut-être que ils s'aperçoivent aussi que la France n'a plus les moyens de ces annonces médiatiques, mais c'est bien ça, ce que vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que il y a vraiment à chaque fois, on sent bien cette volonté de réagir, des fois de surréagir par rapport à un certain nombre de crises, de façon à calmer les esprits, de façon à montrer qu'on est volontariste, mais en réalité les choses ne suivent pas parce que on se donne pas les moyens d'ailleurs de le suivre, parce qu'il nous faut beaucoup de volontarisme politique, il nous faut une puissance publique qui soit suffisamment qui ait les coups des franges d'un point de vue financier pour pouvoir assumer des changements aussi profonds que cela. Et ces changements, il les faut. C'est notre indépendance nationale qui est en jeu, notre indépendance énergétique qui est en jeu. Donc il faut évidemment ces changements, donc il nous faut un véritable choc de compétitivité. Vous savez que la France ne produit plus rien. La France ne exporte plus ce qu'elle n'importe. Et c'est bien là le nœud du problème. C'est notre incapacité, en fait, à faire les investissements de long terme, les investissements massifs, mais également aussi de régler tout un tas de sujets liés au financement de la protection sociale qui, peu à peu, se réduit parce que l'État n'a plus les moyens, en réalité, de payer, malheureusement, tous les acquis sociaux qui ont été successivement conquis par nos aïeux.
Alors, parlez les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre, hein, qui entend faire basculer les secteurs dépendants des énergies fossiles vers l'électricité, qu'elles soient d'origine nucléaire ou renouvelable d'ailleurs. Entre autres, il y a les transports, donc grâce à des véhicules électriques. Et là, le changement d'échelle s'appuierait, c'est ce qu'il a annoncé, hein, sur l'aide au financement de 50 000 véhicules électriques supplémentaires dit à loyer modéré pour les gros rouleurs. Alors les gros rouleurs, c'est ceux qui font beaucoup de kilomètres en raison de leur profession, les aides-soignantes, les infirmières et puis évidemment beaucoup d'artisans. Il a annoncé des aides pour les véhicules utilitaires ou les poids lourds électriques. Et ça, pour des entreprises, ça pourrait aller jusqu'à 100 000 euros par véhicule. Bon, est-ce que l'électrification du parc automobile français, soutenue puis remise en question, je le rappelle, hein, et puis de nouveau relancée par ce plan, est envisageable en quelques années, dans la mesure où elle suppose d'augmenter en proportion le maillage du territoire avec des bornes de recharge, d'améliorer aussi très largement l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, on sait que c'est pas suffisant, sans parler de la question du recyclage des batteries. Et vous disiez, la France, on ne produit plus rien. C'est faisable d'arriver à cet objectif, parce qu'il a annoncé 2030, c'est 4 ans. Ça vous paraît faisable? Ça vous paraît raisonnable? Ça vous paraît envisageable?
Il y a la question d'abord de savoir si on est capable de pouvoir le financer. À la limite, les fonds pourraient être trouvés. La question est de savoir après derrière à qui profite l'ensemble donc d'un changement de système aussi important. Je prendrai l'exemple des pompes à chaleur qui ont été proposées. Oui. Et c'est, je prends cet exemple-là pour montrer que quand on a une ambition politique aussi forte, il faut aussi regarder toute la chaîne de valeurs nous permettant en fait d'arriver à l'objectif souhaité et final. On a appris que le principal constructeur de pompes à chaleur français vient d'être repris par un consortium étranger. Bon. Qu'a fait le gouvernement pour éviter ce genre de situation? Je ne veux pas rappeler, c'est quand même assez douloureux, tout ce que l'on a financé en termes de production d'énergie solaire par des panneaux solaires, alors que la filière de construction et de fabrication industrielle des panneaux solaires était complètement absente, exsangue, et c'était finalement, ça a profité encore une fois aux Chinois. Donc quand est-ce qu'on va véritablement se réveiller pour aussi, en même temps que des mesures comme ça, qui pourraient aller dans le bon sens, puisqu'il faut évidemment électrifier d'une manière assez importante et massive l'ensemble de nos systèmes. Mais derrière, ça pose la question de la production, de savoir qui investit, qui peut investir, et derrière, comment on le fait dans des conditions aussi qui soient acceptables dans un marché qui est ouvert aux quatre vents. Je parle du marché français et du marché européen. Si ça profite en fait aux Chinois, écoutez, on continuera en fait à s'enfoncer dans la misère productive. Voilà.
Oui, alors c'est un excellent exemple celui que vous venez de citer, parce que concernant le secteur du logement, outre l'interdiction annoncée aussi de l'installation de chauffage au gaz à partir de la fin de cette année dans les constructions neuves, je précise, le gouvernement souhaite installer chaque année désormais 1 million de pompes à chaleur fabriquées en France. Ce serait du Made in France, et ce, d'ici 2030, une mesure qui permettrait de diviser, toujours selon Sébastien Lecornu, par deux le coût du chauffage. Alors, cette annonce, on pourrait se dire, c'est très bien, ça va dans le sens de la réindustrialisation du pays, mais, comme vous le disiez, est-ce que l'industrie française est capable de produire toutes les pièces des pompes à chaleur Made in France, pour suivre le plan annoncé par le Premier ministre, qui a également précisé qu'au regard des contraintes budgétaires et du déficit, eh bien, vous savez que l'exécutif veut le contenir à 5% du produit intérieur brut, et ça ne se fera pas avec de l'argent nouveau. Donc on n'injecte pas d'argent, mais on va y arriver en 4 ans. C'est là aussi que, me semble-t-il, il y a une contradiction dès le départ.
Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de vision. Je veux dire, les exemples sont relativement nombreux. Là, on parle donc des pompes à chaleur. Alors, vous dites qu'elles sont fabriquées en France. Peut-être qu'elles sont encore fabriquées en France. Mais le consortium en question, qu'est-ce qui nous garantit que demain, il n'y aura pas fabriqué les pompes à chaleur? Je ne parle même pas de délocalisation en Chine ou dans les pays du Maghreb. Je pense aussi peut-être à des fabrications au sein même de l'Union européenne, dont on sait aussi que les distorsions d'un point de vue coût de production sont encore excessivement importants. Et en tant qu'industriel, je suis bien placé pour le savoir. Mais, encore une fois, quand allons-nous véritablement mener une politique qui associe évidemment un certain nombre d'ambitions industrielles, mais également aussi un minimum de protection, au moins sur une durée relativement déterminée? Souvenez-vous de l'affaire des voitures japonaises à la fin des années 80, début des années 90. On avait quand même imposé un nombre de voitures importées limité. Je crois que c'était 3% à peu près.
Bon, oui, il y a un quota.
Ça a sauvé l'industrie automobile française à l'époque. Ça l'a sauvé. Donc c'est ça qu'il nous faut. Ce sont des mesures comme ça qu'il nous faut. Et là, pour les pompes à chaleur, j'aimerais bien savoir comment on tient en fait le bout de la production de ces pompes à chaleur, qu'il nous faut bien évidemment, parce que ça nous évite de continuer à importer du gaz ou être dépendant des pays producteurs de pétrole. Mais des exemples comme ça, on en a énormément. Alors, nous sommes ici à Toulouse, dans le sud du département. Il y a une usine qui s'appelle la cellulose, qui fabrique de la pâte à papier.
Oui.
Elles sont deux en France, à Tarascon et à Saint-Gaudens. Ce sont les dernières. Elles sont au bord du dépôt de bilan. Et leur survie dépend de quoi ? Pas simplement d'injecter de l'argent momentanément pour pouvoir en fait
les maintenir en vie,
les faire respirer, mais également ça nécessite une véritable vision de savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut être dépendant d'acheter de la pâte à papier venant de l'étranger et d'avoir des coûts de production et des prix de vente bien inférieur à ce qui existe à l'heure actuelle, mais demain, lorsqu'il n'y aura plus de concurrence française, on peut se retrouver dans la situation inverse. Donc c'est et alors surtout, on a les leviers, et le gouvernement pourrait aussi agir, pas simplement en les aidant directement, mais vous savez que la cellulose comme revenu a aussi la production d'électricité liée en fait aux déchets qu'elle et à la récupération de chaleur qu'elle provoque. Bon, c'est EDF qui rachète l'électricité. EDF a été heureusement renationalisé. Le gouvernement n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et à dire au patron de l'entreprise qui ose dire qu'il ne peut pas l'acheter à un prix beaucoup plus bas, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a une dépendance totale aussi de la vente de production d'électricité que nous impose d'ailleurs l'Union européenne, au passage, sur des prix qui sont... sur des prix, et puis surtout sur de la revente en fait, d'électricité à des opérateurs qui n'apportent absolument aucune valeur ajoutée, si ce n'est la sacro-sainte concurrence qu'il faut absolument mettre en place partout, quelles que soient d'ailleurs les conditions sociales que ça peut engendrer par ailleurs. C'est ça, moi, que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de cette vision. La cellulose, encore une fois, c'est pas simplement les emplois des deux usines, c'est aussi toute la filière de la pâte à papier, ce qui veut dire aussi, en amont, toute la filière bois, tout ce qui se passe au niveau des forêts, etc. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire, là, est quelque chose de complexe à mettre en place. Ça nécessite, en fait, du temps, ça nécessite du travail, ça nécessite d'éviter, justement, les effets d'annonce. Et c'est ça peut-être qui nous manque, c'est d'avoir une classe politique qui soit en capacité de pouvoir voir à long terme et ne pas essayer de regarder quelle est sa cote de popularité pour savoir si pour la prochaine présidentielle, ils pourront être élus ou pas élus. Voilà.
On reviendra sur cet aspect. Alors, le Premier ministre a annoncé également une réduction des dépenses énergétiques et une réorientation des aides publiques et privées vers l'électrification. Et il y a certaines associations qui ont... regretter toutefois l'absence de la sobriété énergétique dans le discours de Sébastien Lecornu. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que cet aspect a été peu ou pas abordé dans le plan annoncé par le Premier ministre ? Est-ce qu'il y a un angle mort, comme on dit aujourd'hui ?
Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a un angle mort aussi. Enfin, un angle mort. En tout cas, il l'a pas dit. Je pense que si vous lui posiez la question de savoir si ça pourrait passer aussi par des baisses de consommation ou notre façon de consommer notre énergie, monsieur le Premier ministre serait entièrement d'accord avec l'échange que l'on pourrait avoir là-dessus. Reste à savoir, en fait, quelles mesures on prend, effectivement, pour baisser nos consommations énergétiques, ne serait-ce que par exemple pour se chauffer, quand on voit en fait les passoires thermiques qui existent un petit peu partout. Alors, c'est pas uniquement les grosses passoires thermiques, hein. Je sais qu'il y a un gros effort à faire en fait sur les logements qui coûtent excessivement cher, mais qui seraient évidemment de bon aloi pour réduire nos consommations et être moins dépendants, encore une fois, de la production énergétique carbonée telle qu'on l'a à l'heure actuelle. Voilà.
Eh bien, merci Thierry Cottel d'avoir mené ce débat en solo pour ce premier quart d'heure d'émission. Pierre Esplugas vient d'arriver.
C'est moi qui parle, c'est lui
les
qui
deux
boit
hommes se saluent. Alors, Pierre Esplugas, je reviens un peu au sujet, donc, la première question que j'avais posée concernant le plan annoncé par Sébastien Lecornu pour ce qu'il a appelé l'électrification de la France. Vous avez pris connaissance des mesures de ce plan. Est-ce que ça vous semble une voie à suivre compte tenu de l'instabilité actuelle des marchés d'énergie? On sait qu'elle est liée en ce moment, en tout cas, à l'instabilité politique et géopolitique qui règne dans plusieurs zones de la planète, mais rien ne dit que ça ne va pas durer, voire que ça ne va pas se propager. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce plan?
Alors, tout d'abord, cher Eric, cher Thierry, je vous présente mes plus plates excuses pour ce retard bien trop important qui est dû à un reliquat de mon ancienne délégation. C'est-à-dire que à la mairie de Toulouse, on a pris l'habitude de me faire une représentation pour des activités culturelles. Et j'arrive donc de la maison des associations de Saint-Agne, où la société des artistes méridionaux exposait. Donc, et comme ce sont des bavards, voilà pourquoi je suis en retard. Donc vraiment,
vous allez pouvoir continuer à bavarder.
Donc c'est pas du tout par nonchalance que je suis en retard. C'est parce que parfois il m'arrive de me mettre des ronds dans des carrés, nous, des carrés dans des ronds. S'agissant de l'électrification. Bon, d'abord, j'ai envie de dire que on n'a pas attendu 2026 pour procéder à un plan d'électrification de la France. Heureusement que dans les années 70, le tournant a été pris de construire des centrales nucléaires pour augmenter précisément la production d'électricité qui n'aurait pas pu être suffisante en raison de centrales classiques, de centrales hydrauliques, des barrages en montagne. Donc, évidemment, je pardonne d'emblée de faire un petit peu de politique politicienne, mais heureusement qu'on n'a pas entendu les écologistes pour procéder à cette électrification, puisque même si l'énergie nucléaire, on peut entendre effectivement qu'elle présente des dangers, hein, Fukushima au Japon, en Ukraine, Tchernobyl, donc oui, bien sûr, mais je constate que depuis maintenant 50 ans, l'énergie nucléaire est maîtrisée en France. C'est pas Thierry Cotel qui me démentira, qui est partisan d'une industrialisation de la France, le fait qu'il y ait une industrie, l'industrie nucléaire.
Et d'une énergie nucléaire, mais depuis le début, hein, je ne l'ai jamais changé.
Oui, ben, je comprends.
Alors en 1970, j'étais un peu jeune pour pouvoir m'exprimer là-dessus, mais dès 1981...
Soyons clairs, ouais. Nous sommes tous un peu des vieux complices, des vieux routiers de la politique, hein. Nous nous connaissons tous, et donc je connais les opinions de Thierry, je savais qu'il serait raccord avec moi là-dessus, et en revanche, je ne suis pas raccord donc avec les écologistes. Donc ce qui fait que cette idée de plan d'électrification aujourd'hui en 2026... Ça sonne rond, ça ronfle, mais sans doute est-ce un petit peu trop surcoté, surjoué par rapport à la réalité de ce plan. Moi, ce qui me gêne un petit peu, et là, pour le coup, on va se séparer avec Thierry, il est clair que je suis, pour ce qui me concerne, de philosophie libérale. Et je trouve que ce plan repose une fois de plus sur des aides de l'État dont on maîtrise mal l'issue, je veux dire, la rentabilité, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas l'efficacité, oui, lorsqu'on donne des aides, encore faut-il en mesurer l'efficacité. Cette efficacité est incertaine. Que l'objectif soit là, il n'y a pas de doute. On voit bien que la crise aujourd'hui pétrolière met à mal notre souveraineté, pour le coup énergétique, et qu'il faille aller vers plus d'électricité, aussi bien dans les d'électricité aussi bien dans les logements, dans l'isolation, que dans les transports. Ça me paraît évident. Et puis, dernier mot, s'agissant de l'électrification, là aussi, je sens qu'on va être d'accord, mais l'idée de moins prendre la voiture ou l'avion. Pour ça, il y a ce qu'on appelle le train. Le train, normalement, dans la plupart des cas, ça roule à l'énergie électrique.
Ouais.
La LGV.
Ouais.
Hein, Paris-Toulouse, Bordeaux-Toulouse.
L'unie régionale aussi.
Oui. Alors, non, la plupart, enfin, oui, c'est vrai que certaines ne sont pas encore électrifiées. Hein, je pense à Toulouse-Hoche.
Il y a certains qu'il faut peut-être remettre aussi en.
Oui, c'est vrai. Qu'un chantier, moi, je suis amateur de train, pour tout vous dire, et je constate qu'en 2026, une ligne aussi centrale que Toulouse-Albi n'est pas électrifiée. C'est pas électrifié. Toulouse-Hoche n'est pas électrifié. Donc, il y a le sujet de la ligne à grande vitesse. Là aussi, hein, quand je vois les recours encore déposés dernièrement par des associations écologistes, les bras m'en tombent. Donc, que des écologistes soient contre le train et conduisent donc à encourager indirectement à prendre l'avion ou la voiture, les bras m'en tombent. Donc, l'objectif de Sébastien Lecornu, oui, bien sûr qu'il est bon. Sur les modalités, je pense plutôt qu'il s'agit de mesurettes dont on a du mal à mesurer l'efficacité.
Sur ce point, là, Thierry Cotel, le train, le développement du transport via le train, notamment des marchandises, au détriment de ferroutage, des camions, est-ce que ça manque pas aussi dans le plan annoncé par Sébastien Lecornu?
Tout ce qui pourrait être en fait transféré effectivement sur une énergie qui ne soit pas carbonée serait une bonne chose. Et encore une fois, ça demande aussi du temps. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la supposée différence que l'on peut avoir, elle y est sur l'idée que la puissance publique peut ou ne peut pas, agir. Elle ne peut pas tout, bien évidemment. Moi, les mesures que j'ai critiquées là tout à l'heure, parce que ce sont des mesures déjà qui ont été annoncées et qui, en réalité, sont faites sous le coup de, j'allais pas dire de l'émotion, mais en tout cas de l'actualité et de la crise, en fait, qui se passe comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on se réagit, on communique et on montre qu'on fait quelque chose. Bon. Qu'il faille faire quelque chose et que ça pèse, en fait, sur le pouvoir d'achat d'un certain nombre de nos concitoyens, je parle de ne plus pouvoir, en fait, prendre son véhicule ou en tout cas le faire avec des conditions financières qui soient de plus en plus restrictives, c'est indéniable. Bon, qu'il faille les soulager momentanément, c'est indéniable. Ce que j'ai critiqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vision de long terme, encore une fois, et qu'on ne puisse pas en fait se dire, voilà, on fait un plan. Et j'avais commencé d'ailleurs l'interview en disant que le plan Metzmer, au moins, il avait cette vertu, c'est-à-dire qu'il était engageant pour un certain nombre d'années. On a fait ça en plus de 10 ans, hein, les centrales nucléaires, on ne les a pas faites en claquant des doigts. Et il y a eu de la constance après derrière, les différents ministres, évidemment, Premier ministre, après Metzmer, ont maintenu le truc, et je vous disais aussi, la gauche au pouvoir en 81, là évidemment aussi, même maintenu et Mitterrand l'a maintenu. Ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'il y avait cette vision en fait de long terme que tout le, la classe politique pouvait avoir. Maintenant, ce n'est plus le cas, on veut surréagir, on veut à chaque fois dire qu'on applique telle et telle mesure, et en réalité qui n'est pas appliquée. C'est aussi le questionnement que je me posais en début d'émission, c'est-à-dire de se dire pourquoi. Pourquoi ce qui a été annoncé maintenant sur un certain nombre de mesures, les mesures principales, avaient déjà été annoncées par les gouvernements Macron précédents, même des fois d'une manière beaucoup plus importante. Si je prends par exemple les automobiles électriques, hein, on parlait de 2 millions à l'horizon 2027. Là, on parle maintenant de 2 millions à l'horizon 2030. Bon, bref. Donc, on ne sait pas si ça va être appliqué. Donc, ça manque en fait de constance, ça manque de moyens. Qu'il faille aider les gens là momentanément, oui. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément par des chèques énergie, etc. Moi, je serais même pour qu'il y ait une baisse de la TVA sur l'énergie. Alors, on va commencer à dire que ce n'est pas possible parce que l'Union européenne en a, etc. Ben, à un moment donné, quand il s'agit de l'intérêt national, eh ben, on fait des choses et on voit comment ça se passe après derrière. Et je pense qu'on devrait le faire
oui,
pour...
Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, hein, finalement, avec cette vision. Je redis que des aides à l'achat d'une voiture électrique, ça reste des mesurettes. Et il appartient surtout, avant tout, aux constructeurs de produire des prix compétitifs. Et si la puissance publique, ce que Thierry appelle de ses voeux, veut véritablement taper du poing sur la table, ben c'est pas par une mesurette d'aide à l'achat qui va pas changer grand chose, mais une mesure pas symbolique justement, une mesure forte, comme la baisse de la TVA sur l'énergie, là pour le coup ça aurait un vrai impact, c'est pas une mesurette. Donc pour synthétiser, mais vraiment je savais malheureusement que sur bien des points on serait d'accord avec Thierry Cotel, hein, de ces... non mais c'est
il aurait fallu... Hein,
non, mais j'aurais aimé avoir en face de moi un écologiste, à vrai dire, pour cette émission. Et là, pour le coup, curieusement, il y aurait eu des points de divergence.
Les écologistes sont en train de récupérer des résultats des élections municipales.
Pour répondre à la question que vous posiez, parce que je n'ai pas en fait répondu à votre question concernant en fait les trains c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aussi il faut s'intéresser à l'ensemble de la filière industrielle. Quand on décide de vouloir passer d'une énergie carbonée, une énergie moins carbonée. Pour les trains, c'est soit on électrifie effectivement les lignes qui ne le sont pas, soit on change de système
de
d'électricité on passe d'un diesel à, par exemple, un train à hydrogène. Bon, c'est ce que nous faisons aussi côté région Occitanie, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi de la filière, c'est-à-dire de tout ce qui en amont nous permettra de pouvoir atteindre nos objectifs en toute indépendance industrielle. Et il faut bien mesurer ce que l'on fait pour éviter l'affaire des panneaux solaires.
C'est la question de la souveraineté dans ce domaine
aussi. Les panneaux solaires chinois, en réalité,
hein.
C'est-à-dire qu'on a subventionné à coût de millions la production d'énergie solaire par des panneaux solaires qui sont fabriqués tous en Chine. Voilà.
Oui, c'est le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Clairement, inefficacité des mesures. On accentue paradoxalement l'absence de souveraineté de la France puisqu'on va acheter ces panneaux solaires en Chine. Non, là, et on est un petit peu dans le même registre. C'est ça qui me gêne. Objectif atteindre, oui, sur les moyens mis en œuvre, je suis vraiment dubitatif.
On évoquait la question du million de pompes à chaleur fabriquées en France, hein, qu'annonce Sébastien Lecornu, mais est-ce qu'on a les pièces aujourd'hui pour produire ces pompes à chaleur?
J'ai pas la réponse,
dans une telle proportion.
Est-ce qu'on a la maîtrise de ceux qui fabriquent encore pour le moment en France? Parce qu'on vient d'apprendre en fait que le principal fabricant français de pompes à chaleur a été vendu à un consortium étranger. Quid de l'avenir de la fabrication en France? Il peut se passer comme il s'est passé, on parlait de la cellulose tout à l'heure, j'aurais pu prendre aussi Péchier dans le sud du département, de la même manière, où à un moment donné, on a abandonné la production parce que les Chinois faisaient du dumping et au bout du compte, on s'est retrouvé sans capacité de pouvoir extraire du magnésium et les prix ont remonté côté chinois. Eux font de la stratégie aussi. Non seulement ils ont une vision de long terme, mais ils ont aussi une véritable stratégie et ils savent aussi jouer de la géopolitique pour savoir quels sont leurs propres intérêts pour pouvoir se développer.
Après, j'ai une question à te poser, mais qui est autant à l'ingénieur que tu es qu'au politique et au conseiller régional. Tu évoquais à l'instant la filière de l'hydrogène. Alors, ça, c'est quelque chose dont on parle déjà depuis quelques années, mais n'étant moi-même pas ingénieur, j'ai du mal à mesurer si un jour ça va voir le jour de manière efficace. Ça fait maintenant bien 15 ans hein, qu'on évoque ça, l'avion à hydrogène,
oui.
Où tu évoquais le train à hydrogène, et tu disais qu'au conseil régional, vous travaillez sur cette filière. les résultats ne sont pas là. Est-ce qu'il y a un espoir?
Est-ce que ça peut constituer une alternative? Oui, c'est voilà. Ça la question.
J'ai du mal à me faire une idée.
Alors,
à proportion,
les solutions techniques, on va dire compétitives, ne sont pas encore au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a encore des sauts technologiques à effectuer. Que l'on voit pas encore, alors pour l'avion hydrogène encore mieux, encore plus, mais pour le reste qu'on commence finalement à voir. Donc il y a tout un, ben c'est un petit peu le campus en fait de Franck Casal va servir à ça. C'est vraiment d'arriver en fait.
Oui, mais là aussi le campus à Franck Casal, on voit bien que on a du mal à en percevoir la réalité quoi.
Oui, ben justement parce que je pense qu'il est fait pour pouvoir en fait faire petit à petit cranter ces sauts technologiques qui feront qu'à un moment donné on arrivera à quelque chose qui soit véritablement efficace. On n'y est pas encore, mais c'est cette fameuse R&D qu'il nous faut continuer à développer, je dirais même R&T, c'est-à-dire faire ces sauts technologiques pour arriver en fait à quelque chose d'efficace. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais bon, ayons cette vision de long terme pour se dire que, même quand même d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver.
Alors une ultime question que je voulais vous poser, c'est que l'électrification du pays, dans tous les domaines, puisque c'est ce que viserait Sébastien Lecornu avec ce plan, est-ce qu'elle ne va pas s'accompagner immanquablement d'une hausse des tarifs de l'électricité? Parce que si on n'utilise plus l'essence ou beaucoup moins, bah toutes les taxes que récupérait, le montant des taxes que récupérait l'État sur les ventes d'hydrocarbures, il va bien falloir le compenser d'une manière ou d'une autre dans le budget de la France. Thierry Cotel.
Oui,
c'est compliqué de répondre.
Non, mais c'est-à-dire que je fais confiance aux locataires techniques de Bercy pour trouver d'autres systèmes de compensation et de récupération en fait de taxes.
Vous êtes d'accord, il faut récupérer quelque part.
Oui, bien évidemment. D'ailleurs, on le voit là actuellement, hein, c'est-à-dire que ce qui accompagne en fait la hausse des tarifs, parce que le prix du baril a augmenté d'une manière significative, c'est aussi des rentrées importantes.
Oui, bon,
je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque à la fin des années 90. C'était le gouvernement Jospin qui bénéficiait en fait d'une rentrée en fait fiscale inattendue et massive puisque et à ce moment-là il y avait qu'est-ce qu'on fait en fait on appelait ça la cagnotte. Il n'y avait pas de cagnotte, mais il y avait un surplus en fait qui n'était pas attendu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du surplus. Où est-ce qu'on le met? Bon, mais là c'est exactement pareil quoi. Mais dans l'autre sens aussi, ça peut. Là c'est pareil par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que en fait l'État récupère énormément d'argent par ce système-là. Ça, je parlais, moi, d'une baisse de TVA au moins momentanée, alors peut-être pas de produits de première nécessité à 5,5. Je sais qu'il y a on est soit entre 18 et 20 ou diminué à 5,5. Pourquoi pas? En tout cas, momentanément. Mais pourquoi pas? Après tout, l'énergie est un produit aussi de première nécessité.
Eric, pour répondre à votre question, bien sûr que je n'ai pas la réponse sur la compensation fiscale, mais ce que je peux vous dire, c'est que, pour aller dans le sens de Thierry, c'est que l'imagination des spécialistes de droit fiscal. Et sans borne.
Oui.
On enseigne, je me rappelle moi de mes cours de première année, où lorsqu'on enseigne l'histoire du droit fiscal, c'est le fameux impôt sur les portes et fenêtres. Ça peut paraître complètement loufoque, mais voilà, si c'est pas les portes et fenêtres, ça sera autre chose. Si c'est pas l'énergie, ça sera autre chose. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai pas une réponse clairement.
C'était la gabelle aussi, le sel.
Oui, la gabelle. Voilà, non, c'est sans borne. L'imagination
est absolument
sans borne. Donc ça, pour le coup, c'est un faux sujet. On trouvera bien.
Oui, enfin, c'est un faux sujet quand même. Je pense que si on va vers l'électrification à outrance, il va bien se poser ce sujet. Et si on nous annonce ça d'ici 2030.
Ce qui est le plus facile en fait à récupérer, c'est-à-dire une espèce d'impôt universel qui donc bon, on parlait des portes et fenêtres, mais la gabelle c'était ça, la gabelle c'était le sel. En fait, le sel était indispensable à l'époque pour conserver les aliments. Donc c'était quelque chose qui était consommé par tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y avait un impôt d'ailleurs sur le sel. Sinon pourquoi sur le sel quoi. Bon,
mais comme l'essence aujourd'hui est indispensable à tout le monde pour se chauffer, se déplacer.
Bon. Et demain peut-être que la production d'électricité sera aussi.
Mais ça sera sur l'hydrogène, je sais pas. Voilà.
Peut-être.
Peut-être.
Oui. En tout cas, aujourd'hui, il n'est toujours pas question d'ajuster les taxes sur les hydrocarbures, malgré le fait que les Français aujourd'hui n'arrivent plus à mettre de l'essence pour certains dans leurs voitures ou beaucoup moins qu'avant. Je ne sais pas si ça ne va pas se faire à un moment donné quand même d'ajuster si ce conflit se prolonge avec les causes que l'on connaît. Et d'ailleurs, même si le conflit est résolu, les Trois d'Hormuz, on ne sait pas non plus comment ça va évoluer.
Oui, là, c'est pas ici qu'on va résoudre la crise du détroit d'Ormuz. Hein. Mais non, mais là aussi, je ne peux que répondre. Il s'agit d'avoir une vision, on subit. On n'a pas le choix. Et c'est trouver des moyens alternatifs et pas par des mesures aides. On l'a déjà dit. On ne va pas repartir à zéro sur le débat. Pour le coup, on est vraiment d'accord. Il faut avoir une vision à long terme pour se désengager des hydrocarbures. Et l'électricité. Pas par des mesures.
Et planifier. Tu n'étais pas là, mais je parlais de planification. Peut-être que ça va te. Mais la planification est tout à fait louable.
La planification, ça existe.
La programmation pluriannuelle.
Oui, la planification, à l'époque gaulienne, c'était pas un gros mot. Hein.
J'allais le dire. Je me référais même pas au marxisme.
Le terme fait un peu old school quand même, fait un peu désuet.
Oui.
Ah ben non, mais ouais, c'est français, quoi. On fait un plan.
Oui, enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, je trouve. Alors bon, on verra ce qui va venir.
Tu planifies ton agenda.
Oui, en parlant de plan, on verra.
Planification sur la semaine, etc. C'est pas un gros mot.
On verra ce qui va devenir. Du plan de Sébastien Lecornu et si effectivement on va vers quelque chose d'encore plus vaste que ce qu'il a annoncé pour l'électrification du pays dans tous les secteurs. Affaire à suivre, nous allons faire la pause dans cette émission, une vingtaine de secondes pour respirer un peu, puis retour à l'antenne avec un débat sur un autre sujet d'actualité. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous revoici toujours en direct et toujours en compagnie de Thierry Cotel, conseiller régional d'Occitanie, président national du mouvement républicain et citoyen, dirigeant d'entreprise, et de Pierre Esplugas, universitaire, professeur de droit public, adjoint au maire de Toulouse, membre du parti Les Républicains. C'est encore Sébastien Lecornu qui nous fournit le second sujet de cette émission, puisque lundi, il a finalement décidé de ne pas convoquer la commission mixte paritaire sur la proposition de loi, vous savez, celle qui prévoit l'extension de la possibilité de travailler le 1er mai. Je rappelle que c'est le seul jour chômé payé en France, et devant la levée de boucliers des syndicats et de toute la gauche, Parti socialiste compris, le Premier ministre a choisi la prudence au risque de s'attirer les foudres des autres partis qu'il soutient au Parlement. Est-ce que vous étiez favorable à cette proposition de loi et que vous inspire la reculade du chef du gouvernement dans cette affaire ? Pierre Esplugas.
Alors, dans votre question, il y a effectivement deux niveaux de lecture. Il y a un deuxième niveau, vous êtes terminé par ça, qui est le niveau de forme politique. C'était un peu écrit que le Premier ministre Sébastien Lecornu renonce à cette proposition de loi. C'était un peu écrit parce que notre pays est ainsi fait que c'est agité le chiffon rouge. D'autant plus s'agissant d'un gouvernement qui n'a pas de majorité. Et donc, n'ayant pas de majorité, c'est compliqué de passer en force. Et si on agit de chiffon rouge, pourquoi aller se mettre le feu sur un tel sujet ? Donc vraiment, c'est un petit peu écrit. Sébastien Lecornu peut remercier son ami, son meilleur ami Gabriel Attal, parce que c'était évident que ça allait mettre la panique dans la majorité, puisque la majorité actuelle est assez plurielle, finalement, et il y a aussi des gens de gauche, et c'est agité un totem. Ça, c'est sur la forme. Sur le premier niveau de lecture, qui est le fond, oui, je suis désolé, je suis un libéral, pardon de ce gros mot. Et un libéral, si des gens veulent travailler, pour un libéral, pourquoi les en empêcher ? Si des fleuristes, si des artisans boulangers, comme c'était l'objet de ce projet, de cette proposition de loi, veulent travailler un 1er mai, j'ai envie de dire, well done, pourquoi pas ? Ce d'autant plus que, pardon de le dire, mais tout le monde se plaint, c'est une réalité, du déclassement de notre pays. Mais pourquoi il y a un déclassement entre pays ? Parce qu'on ne produit pas suffisamment de richesses. Pourquoi on ne produit pas suffisamment de richesses ? Parce qu'on ne travaille pas assez. Et pourquoi on ne travaille pas suffisamment assez ? Parce qu'il y a beaucoup de congés. Et pourquoi il y a trop de congés ? Mais peut-être aussi parce qu'il y a trop de jours fériés. Alors je ne sais pas si c'est le 1er mai, si c'est le 11 novembre. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui, en 2026, de s'arrêter le 11 novembre ? Je n'ose dire même le 8 mai. Dans un pays laïque, c'est pas toi Thierry qui me dira le contraire, de s'arrêter le jour de la Pentecôte ou de l'Ascension. Je ne suis pas certain. En tout cas, on ne travaille pas assez. Et s'il faut commencer par le 1er mai, pourquoi pas ? S'il faut commencer par un autre jour, pourquoi pas aussi ? Mais ça renvoie à un sujet de fond de l'absence de volume de travail dans ce pays, je le pense, oui.
Thierry Cotel, le dirigeant d'entreprise que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense ?
Je suis sur le fond, fermement opposé en fait à travailler le 1er mai. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent dans mes comités d'entreprise, et en général ils sont assez d'accord, j'ai deux lignes rouges, c'est le 14 juillet et le 1er mai. Je ne ferai jamais travailler mes salariés le 14 juillet ni même le 1er mai, même s'ils me le demandent, même s'ils veulent le faire. Bon, ce sont des questions de principe. Alors, chacun a ses principes, on est bien d'accord, mais je vais revenir d'abord peut-être sur la forme. Effectivement, là, je suis d'accord avec Pierre, c'est-à-dire qu'on est en train en fait, d'agiter un truc, en fait, c'est les débats qu'on adore pour un résultat attendu qui est ridicule par rapport aux enjeux et aux discussions que l'on peut avoir sur le fond, franchement. On parle du 1er mai, on parle de choses déjà qui existent aussi, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde n'a pas le droit de travailler le 1er mai. En réalité, c'est très réglementé, et c'est réglementé, il y a un certain nombre de professions qui peuvent être...
Bah, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est prévu que les gens qui travaillent le 1er mai soient payés le double. Donc ça explique bien qu'on peut le faire.
Exactement. Et il y a des gens qui le demandent. Enfin, moi, si on me paye le double le 1er mai, j'y vais, moi.
Oui, mais c'est pas ça la question. Parce qu'il y a la volonté peut-être des gens, mais c'est, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dès l'instant où ça devient possible, il peut y avoir une part de liberté et d'incitation par le
fleuriste est toujours libre de ne pas travailler le 1er mai.
Alors, le fleuriste travaille le 1er mai, parce que justement, ça fait partie des professions qui peuvent travailler le 1er mai. Même si on peut vendre notre muguet le 1er mai...
Sur le trottoir.
Sur le trottoir, il se trouve que cette profession, les fleuristes, en fait, peuvent ouvrir le 1er mai.
Tu en es sûr? Je tiens pourquoi? Parce que, justement, il me semblait que c'était précisément dans la proposition de loi que ce type de profession était concerné. C'est possible. Hein.
Pour les boulangers, mais sinon, oui.
C'est surtout les boulangers.
Je me suis un petit peu renseigné. C'est-à-dire qu'il y avait
d'ailleurs, on a été reçu ce jeudi.
Parce que moi aussi, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Parce que je me dis quand même, le 1er mai, j'ai bien vu des commerces aussi hein, qui étaient ouverts, etc. Alors, il y a ceux qui prennent le risque d'un contrôle et d'être sanctionnés avec une amende. Mais après, il y a ceux qui le font en toute légalité. Donc, il y a les secteurs de nécessité publique, donc c'est la santé, la sécurité, les services publics aussi, y compris le transport d'ailleurs, qui peuvent fonctionner le 1er mai.
Tu es sûr, parce qu'en tout cas, Tissot, ça ne fonctionne pas le 1er, ça je suis certain.
Mais le seul jour. Mais ça peut.
Vous parlez des transports publics, là.
Des transports publics, oui. Ouais. Le train, par exemple, fonctionne.
Oui.
Les secteurs à flux continu en production, c'est-à-dire des fonderies, des choses comme ça,
qui ne peuvent pas s'arrêter
du jour au lendemain, ou en tout cas qui nécessitent en fait, un coût tellement important que
de redémarrage.
Ils ont l'autorisation d'eux. Les secteurs du tourisme.
Parlez bien en face du micro.
Les secteurs du tourisme. Et de certaines consommations immédiates. Alors,
et donc pourquoi pas les artisans boulangers?
Mais parce que je pense qu'on peut acheter le pain la veille et ça pose absolument comme problème. Quand j'entends dire qu'un certain nombre de boulangers, je peux comprendre dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire que les gens en fait ont du mal à vivre. C'est ça le vrai cœur du sujet. Et c'est pas parce qu'on travaille un 1er mai qu'on peut arriver en fait à avoir un petit peu plus de chiffre d'affaires et sauver son entreprise. C'est toujours un gain supplémentaire, on est d'accord. Mais à un moment donné, être dans une situation où vous pouvez obliger un de vos salariés ou même lui dire sur la base du volontariat, alors qu'on sait que on sait comment ça fonctionne, la base du volontariat. On peut pousser aussi les gens. Ben, tu veux ou tu veux pas? Ben non, je veux pas. Bon, ben tu veux pas. Mais plus tard, on te fait remarquer que tu n'es pas souple par rapport à tel ou tel salarié.
Mais Thierry, s'agissant d'une profession libérale, comme commerce ou l'artisanat, pourquoi les interdit-on?
C'est parce qu'il y a des salariés. Parce qu'il y a aussi des salariés dans une boutique. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais il y a quand même des salariés. Voilà. Alors, après... C'est le symbole. On est bien d'accord aussi parce que ça a quand même une valeur particulière. Il y a une dimension historique d'abord quand même le 1er mai. Et moi je tiens à le rappeler par rapport à ce qui s'est passé. Hein, c'était aux États-Unis, mais également aussi à Fourmies, la fusillade des grévistes de Fourmies. Ça pèse quand même dans l'inconscient collectif. Il y a aussi
tu es presque le seul à savoir.
Je suis pas certain qu'il y ait
peut-être, mais en tout cas l'origine vient de là.
Oui, voilà. Je suis pas le contraire.
Et de fêter le travail le 1er mai, il y a forcément aussi un certain nombre de difficultés que nos AUE ont eu pour pouvoir en fait défendre aussi un minimum de repos et de la dignité aussi au travail. C'est aussi le jour des manifestations syndicalistes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des revendications directes par rapport à un événement particulier, mais plus des revendications aussi générales. Et ce moment-là, il n'est pas non plus inutile de le retrouver, même s'il y a de moins en moins de syndicalistes, même s'il y a de moins en moins de gens qui manifestent. Il y a un certain nombre donc de choses, de traditions. Je ne vois pas pourquoi les traditions religieuses ou les traditions culturelles seraient moins importantes que les traditions liées au droit du travail et à la défense du travail.
Alors Thierry Cotel a dit quelque chose qui me semble très important et j'allais vous poser une question là-dessus parce qu'on peut retourner un petit peu le problème en se disant mais pourquoi tant d'artisans demandent à travailler le 1er. Pourquoi sont-ils obligés de travailler le 1er mai, en quelque sorte, pour certains, pour sauver leur activité? C'est-à-dire que s'ils ne travaillent pas, ils perdent du chiffre d'affaires, ils perdent tellement de chiffre d'affaires que ça peut mettre en danger leur commerce. Donc, il y a quand même un problème. Pourquoi on n'arrive pas à gagner sa vie aujourd'hui en France suffisamment pour se permettre un jour de congé comme
et
ça?
Et voilà, à un jour près, quoi. Ce qui veut dire que le problème est ailleurs. Le problème est véritablement ailleurs. Et je voudrais reprendre ce que tu dis tout à l'heure concernant, en fait, le fait que...
On ne travaille pas assez. Voilà.
On ne travaille pas assez, mais ce n'est pas...
On gagne pas assez bien sa vie en travaillant.
Ce n'est pas les jours de congé. Ce ne sont pas les jours de
congé. Ce n'est pas les jours fériés qui posent problème.
Ce n'est pas les jours fériés, ce n'est même pas les jours de congé. Oui. On est dans la moyenne, voire même... on est dans la moyenne...
Sur les jours fériés, on est même en dessous.
On est même en dessous sur les jours fériés. Donc, ce n'est pas ça. C'est pas ça le problème. On n'est pas aussi... Moi, je trouve que j'ai aussi des entreprises à l'étranger. Et quand je vois, en fait, le droit du travail dans un certain nombre d'entreprises de l'Union européenne, y compris en Allemagne, par exemple, où j'ai un taux d'absentéisme, en fait, chez les salariés, qui est quasiment le double de ce qui existe en France. Alors que tout le monde pense qu'en Allemagne, tout le monde travaille, etc., et que c'est quelque chose qui... Bon, non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de... j'ai beaucoup d'arrêt maladie parce que sur les 3 premiers jours, ils n'ont même pas de justificatif à donner.
Oui.
Même pas de justificatif à donner. Bon, c'est pour ça que quand on compare, en fait, les différents pays, il faut tout comparer, regarder ce qui se passe. On a beaucoup, nous, de défauts, mais les autres aussi peuvent en avoir. Donc je pense que là où c'est le plus important, c'est de voir, en fait, finalement, le taux d'emploi des jeunes. Et là, on parle de quelque chose de beaucoup plus massif. On n'est pas un jour près de travail. Quand on voit qu'on a un taux de chômage de l'ordre de 20% pour les plus jeunes, ou un taux de chômage relativement important aussi pour les seniors, commençons à trouver du travail pour les seniors, à trouver du travail pour les jeunes, c'est-à-dire à être beaucoup plus productif qu'on ne l'est, c'est-à-dire à inciter la production. Et moi, j'ai envie de dire, le coût du travail est effectivement quelque chose qui peut être revu à la baisse. Alors, quand je parle du coût du travail, attention, je ne suis pas dans la même philosophie que Pierre pourrait expliquer. Je dis simplement que ce qu'on fait peser sur le travail, en voire même d'avoir produit un seul produit, c'est déjà un problème. Moi, je préférerais qu'on allège, en réalité, un certain nombre donc, de cotisations qui sont
payées. Des charges.
Cotisations sociales ou autres qui sont payées sur la masse salariale.
Oui.
Et qu'on les mette...
Par le patron.
En fait, alors, par le patron, même par le salarié. Mais qu'on les mette, par contre, en bas, c'est-à-dire au niveau du bénéfice net. C'est-à-dire que moi, je suis pour une remontée de l'impôt sur les sociétés. Mmh. Parce qu'une fois qu'on est sur l'impôt sur les sociétés, ça veut dire qu'on a tout payé. L'investissement... le salarié, les cotisations aussi sociales, etc. Et après, on voit ce qui reste et après, on distribue. Bref, un rééquilibrage entre les revenus du travail et du capital. Il en faut du revenu du capital, parce que sinon, on n'aurait pas non plus de gens qui investissent. Mais il y a un rééquilibrage qui devrait être fait, qui n'a pas été fait depuis des années, au contraire, qui a été fait au bénéfice, en fait, du capital, et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est maintenant.
Qu'en pense le libéral Pierre Esplugas?
Alors, justement, voilà. Alors, non, justement, sur ce dernier point, je pense qu'effectivement, moi, je suis partisan, la valeur travail, pour moi, est une vraie valeur, et donc, partant de là, celle-ci doit être encouragée au détriment du capital, donc j'ai aucun problème sur ce dernier point. Mais, Eric, vous me relancez sur l'idée qu'en pense le libéral Pierre Esplugas. S'agissant de la question du 1er mai, moi qui ai horreur des distinctions binaires et manichéennes, c'est vrai que là, pour le coup, la différence de conception, elle est dans les valeurs entre, comment te qualifier Thierry, entre le républicain, attaché à une certaine histoire de la gauche sociale.
C'est la
gauche sociale. Et le libéral que je suis. Le libéral que je suis...
Ou le gaullisme.
Non, mais ça, c'est encore autre chose, le gaullisme. Moi, je ne sens pas gaulliste.
Je ne pense pas que Pierre Esplugas se rattache tout à fait à cette tradition.
Oui, j'entends.
Gaulliste de gauche, comme on les appelait.
Non, parce que pour moi, c'est de l'histoire, le gaullisme. Voilà. Et puis, encore faudrait-il définir ce qu'est le gaullisme. Le gaullisme est avant tout une pratique. Est-ce que c'est une idéologie? Je ne suis pas certain. Mais bon, parenthèse refermée. Ça nous entraînerait trop loin.
Ça mériterait une émission entière.
Voilà.
Je vous ai dit, c'est un sujet intéressant.
Oui, bien sûr. Mais non, et donc, le libéral que je suis pense qu'il ne faut pas contraindre le travail. C'est vrai. Et la personne de gauche qui est Thierry Cotel, évidemment, s'enfourne sur ses grands chevaux de la gauche combattante dans l'histoire. Il l'a rappelé, aux États-Unis, les luttes du 1er mai. Bon, c'est vrai que j'y suis moins sensible. Hein. Ça me paraît au siècle dernier, peut-être même pas au siècle dernier, ça me paraît au 19e siècle. et ça me paraît un peu daté. Donc, aujourd'hui, la problématique n'est plus celle-là. Mais ça n'engage que moi, ce que je dis.
Alors, je vais revenir à des considérations un peu plus politiques. politique, parce que la même semaine, hein, comme vous le savez, le gouvernement a dû renoncer à cette proposition de loi pour éviter aussi de braquer le Parti socialiste en vue du vote du budget, parce qu'ils vont avoir besoin du vote des élus socialistes à l'Assemblée. Et puis, il y a eu aussi la loi sur la mise en place des ZFE. C'était une mesure vraiment portée par Emmanuel Macron, par l'exécutif. Et moi, je me rends compte que... Au vu de cette séance parlementaire et de cette double reculade, est-ce que Sébastien Lecornu n'est pas encore plus fragilisé et bloqué pour engager les réformes qu'il souhaite, ce qui nous promet pour l'année qui vient, d'ici 2027, un immobilisme quasi total? Thierry Cotel.
C'est pas une nouveauté. Je veux dire, on sait depuis la dernière dissolution que le temps qui nous séparait de la dissolution à la prochaine élection présidentielle n'allait pas être particulièrement productif. Bon, je veux dire, que ce soit sur cette mesure ou sur d'autres, alors sauf les autres sur lesquels il peut y avoir un consensus, etc. Mais je veux dire, il n'y a aucune réforme de fond qui est lancée, il n'y a absolument aucun travail pour préparer l'avenir qui est véritablement lancé parce qu'il n'y a pas de majorité franche pour pouvoir le faire. Donc je suis pas plus étonné que ça. Et je pense que ça va être comme ça encore jusqu'à la prochaine présidentielle. Alors, à plus forte raison, maintenant que les élections municipales sont passées, tout le monde va avoir les yeux fixés sur l'élection présidentielle, ce qui est tout à fait normal. C'est une élection quand même extrêmement importante pour notre pays. Celle-là sera d'autant plus importante. Donc, je pense qu'on ne va pas vers un certain nombre de mesures qui vont véritablement changer la donne, si ce n'est, encore une fois, des mesures liées à une communication permettant, en fait, de faire une campagne présidentielle pour soutenir tel ou tel candidat.
Pour employer une expression.
Même si le Premier ministre, il a raison de le dire, j'en sais rien, en tout cas il le dit, il n'est pas candidat pour la prochaine élection présidentielle. Ça le rend peut-être un petit peu plus libre à ses yeux, mais je pense qu'en réalité, la vraie liberté, elle est liée à la majorité, aux différentes majorités qu'il essaie de faire projet par projet.
Voilà. Sur le volet strictement politique, effectivement, c'est pas une surprise pour personne, le fait qu'on tend vers un immobilisme faute de majorité politique, les projets ont besoin d'être portés politiquement. Et s'ils ne sont pas en mesure, en l'absence de majorité, d'être portés politiquement, ils ne vont pas au bout. Ça, c'est la base. Mmh. Bon, donc ça, c'est pas une surprise. Sur le fond de la ZFE, très sincèrement, j'ai beau être libéral, mais j'ai une part de gauche en moi. Et cette part de gauche en moi veut que je trouve que les ZFE, si ça répond à un objectif écologique légitime...
Et de santé,
c'est au final une mesure antisociale. Parce que toujours pareil, qui a les moyens de s'acheter une voiture électrique des derniers cris, des gens qui ont de l'argent. Qui roule en diesel un peu vieux, des gens qui ont moins d'argent. Et donc, évidemment, cette mesure touche ceux qui, les deuxièmes personnes, ceux qui ont moins d'argent. Donc, je trouve ça profondément antisocial. Et puis, c'est encore une contrainte qui pèse sur les gens qui sont en dehors des centres-villes. Et qui sont les gens en dehors des centres-villes? Peut-être parfois, justement, des gens qui ont moins de moyens que ceux qui habitent Place Saint-Georges.
Toulouse, pour ceux qui nous écoutent ailleurs.
Bien sûr. Qui habitent Avenue Foch. Hein. Avenue Foch, vous avez le taxi qui vous entend en bas et c'est réglé. Vous habitez à Garges-lès-Gonesse, si c'est compliqué d'entrer dans Paris, vous n'allez pas en Paris. Et ça, c'est pas bien. Donc je trouve ça que c'est une mesure antisociale. Pour autant, ce qui est assez intéressant dans le fond de la mesure qui a été enterrée, moi je suis aussi un girondin, c'est-à-dire donc un décentralisateur, et je fais confiance aux collectivités territoriales. Et justement, dans les collectivités territoriales, puisqu'il y a des majorités, les projets peuvent être portés. Et donc la mesure que voulait le gouvernement, par un amendement, c'était de laisser aux collectivités territoriales le soin de décider. Et donc moi je ne suis pas forcément un jacobin qui veut tout uniformiser, et donc si la métropole de Toulouse décide que il n'y a pas de ZFE. Et si la métropole de Lyon décide qu'il y a une ZFE, pourquoi pas? Eh bien, même ça, on n'y est pas arrivé, faute de majorité politique. Et ça aurait été un moindre mal, j'ai envie de dire, à cette mesure-là. Moi, qui me déplaisait pas, je crois à l'expérimentation législative ou dérogation législative par rapport au pouvoir central. Tout ne doit pas venir d'en haut, et ça peut venir du bas, et notamment des collectivités territoriales. Est-ce que tu es d'accord là-dessus?
Oui, j'allais vous poser la question, Thierry Cotel, sur cette histoire des ZFE. Quelle était votre position?
Que ce soit effectivement une mesure... Alors, j'allais dire antisocial, c'est un bien grand mot quand même, je veux dire, par rapport en fait à l'enjeu.
Qui avait des conséquences sociales.
Mais qui a des conséquences en tout cas, effectivement, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des véhicules dernier cri, je parle même des véhicules thermiques, hein, qui ne polluent pas énormément, bien évidemment. Le problème après, c'est de trouver les alternatives. Je pense que les alternatives dans les agglomérations ou dans les communautés urbaines, c'est effectivement de pouvoir investir massivement dans les transports en public et pas simplement dans les villes-centres, ce qui est malheureusement le cas ici à Toulouse, mais là je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Pierre. Donc il y aurait des systèmes en fait, tout comme, même si effectivement...
La troisième métro, elle va de Colomiers à la Belge,
oui,
hein, c'est pas la ville-centre.
Elle a deux petits bouts des deux côtés. De façon à faire passer...
Ça traverse toute la ville, toute la métropole.
Deux petits bouts. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde un peu ce qui se passe sur la région parisienne, où les moyens importants ont été mis aussi par la puissance publique, quand même, d'une manière assez inégalitaire par rapport aux autres communautés urbaines. Mais quand on arrive en fait à mailler et au-delà, alors il y a on appelle ça le RER métropolitain, mais enfin, je veux dire, tout système en réalité qui puisse utiliser des infrastructures existantes et qui puisse massifier en fait les transports en public. C'est ça vers quoi il faut évidemment qu'on aille, de façon à pouvoir évidemment préserver de la pollution les centres-villes, parce que c'est quand même un souci majeur, mais en même temps aussi trouver des solutions permettant à ceux qui n'en ont pas forcément les moyens de pouvoir se déplacer d'une manière efficace. Et en région parisienne, même si Garges-lès-Gonesse effectivement est assez... tu as pris cet exemple, c'est assez rigolo parce que je trouve que j'y vais assez souvent dans ce coin-là. Il y a quand même aussi des systèmes de transport en commun qui sont efficaces, même si ça pose d'autres problèmes aussi en termes de sécurité, notamment dans les transports publics. Mais ça, c'est quand même un autre sujet.
Et sur la décision transactionnelle qui avait été imaginée de laisser aux collectivités territoriales le soin.
Oui, pardonnez-moi, on ne va pas aborder ce sujet parce qu'on arrive
non,
à la fin.
Non, je ne suis pas défavorable.
Alors voilà, il a répondu.
Bien que jacobin, mais il faudrait qu'on on ait une autre émission pour savoir ce que c'est un jacobin, un gironin.
Vous avez, 30 secondes chacun pour un coup de gueule ou un coup de cœur du jour, du moment, si tant est que vous en ayez un. Thierry Cotel, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous?
Alors d'habitude, je ne prépare pas ce genre de truc, mais là j'ai réfléchi un peu. Alors d'abord, il m'est arrivé un truc, c'est un coup de cœur, enfin, c'est pas un coup de cœur. Il faut de temps en temps aussi dire qu'on arrive à des choses extrêmement positive. Donc je suis content que le premier avion permettant de faire donc des liaisons de plus de 18 000 km soit enfin sorti des chaînes d'Airbus. C'est la 350-1000 qui s'appelle Sunrise. C'est une prouesse technologique et technique dont on pourrait être fier et dont il faut qu'on soit fier. Donc je dis bravo aux équipes d'Airbus et puis bravo Cocorico, à la France et puis également aussi aux autres pays européens qui participent à tout ça. Le deuxième chose, c'est une parole du pape. Et après, je m'arrêterai.
Oui, allez-y. Alors, le pape, vous pouvez.
Et je peux. Hein,
bon, sur Radio Présence.
Voilà. Donc, il a dit récemment en Côte d'Ivoire, la loi est un rempart sûr contre les caprices des riches et des plus forts. Eh bien, je dis bravo Léon XIV, je suis pleinement d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Voilà.
Ce qui est remarquable pour le laïc qu'est Thierry Cotel.
Mais pas anti-religieux.
Mais très vite, là.
C'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, donc je fais un 2 en 1. C'est le fait que je suis content que Toulouse ne soit pas la première grande ville laissée au LFI, à la France Insoumise. Moi qui suis profondément toulousain, je retrouve que ça aurait été une catastrophe. Et je trouve que honte à certains membres du Parti Socialiste et à sa tête de liste François Briançon d'avoir réalisé un accord de la honte qui a failli faire basculer Toulouse dans le parti extrémiste qu'est la France Insoumise.
Oui, alors ça a été dit effectivement. Bon, alors fin de cette 226e mêlée. Nous avons de toute façon, bien sûr, soyez remerciés tous les deux d'avoir débattu ensemble dans les règles. Merci aussi à Coraline Kemmebrack, la réalisatrice de cette émission. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.